Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 mai 2022 et puis alors vendredi on a passé à ça de la correctionnelle, puisque le S&P 500 est rentré dans cette fameuse zone de bear market. Cette fameuse zone qu'on craignait et qu'on craint toujours, rien n'est réglé évidemment, c'est pas que c'est terminé, mais en tous les cas, on notera un joli reversal vendredi dernier. Il faut pas trop s'échauffer non plus, ça reste quand même situation extrêmement délicate. Et puis pour l'instant, rappelons quand même qu'à chaque fois qu'on a eu des rebonds ces dernières semaines, c'est plutôt ce qu'on appelle des dead cat bounces, c'est-à-dire que le rebond un jour maximum, puis après bam, on s'en prend 3-4% dans la figure. Donc c'est un petit peu ce qu'on craint et c'est un petit peu ce qu'on risque d'avoir ces prochains jours, sachant qu'évidemment rien n'est réglé, mais en tous les cas, on a vu une vague d'achats en fin de semaine. Alors ça peut se justifier sur plusieurs raisons, hein. Le fait qu'en fin de semaine, les gens viennent clôturer les positions qui étaient tendanciellement baissières pour partir en week-end. Donc à suivre, voir ce qui va se passer un petit peu ce matin. Pour l'instant, les futurs sont bien orientés, mais on sait aussi que ça ne veut pas dire grand-chose et que tout peut tourner très vite dans ces fabuleux marchés que nous vivons en ce moment. Alors si on prend simplement la presse du week-end, eh bien on voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont réfléchi et qui réfléchissent pour savoir où est-ce qu'on va aller dorénavant. Alors il est vrai que quand on regarde la tronche du Nasdaq qui est largement en bear market depuis des semaines et des semaines bientôt, on imagine assez mal que le S&P 500 puisse s'en sortir à lui tout seul. Surtout qu'à l'intérieur de l'indice, on voit que les titres qui servaient un petit peu de valeur refuge sont en train de péter les uns après les autres. On a eu la semaine dernière tous les boîtes du retail qui ont sauté, des boîtes comme Walmart, des boîtes comme Target, parce qu'on voit qu'effectivement le consommateur est en train de lâcher prise, hein. C'était, on l'a dit la semaine dernière, un des derniers remparts qui peut nous servir à sauver cette économie qui est en plein meltdown en ce moment. Donc il est vrai que l'on voit à l'intérieur des indices que finalement, eh bien, ces espèces de points où on pouvait trouver encore un peu de refuge sont en train de disparaître les uns après les autres, ce qui a tendance à vouloir nous mener dans une direction forcément baissière. Donc par rapport à tout ça, si vous regardez un petit peu les avis aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'effectivement on est plutôt dans une phase de vendre sur force plutôt que d'acheter sur faiblesse. On a un petit peu oublié ce concept du buy the dip depuis quelque temps, on l'a vu et répété, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment le sentiment que les gens sont en train de se positionner gentiment pour accepter cette phase de bear market. Alors la problématique du bear market, c'est qu'on sait que ça dure moins longtemps que les bull markets, ça c'est la bonne nouvelle. La problématique, c'est qu'on ne sait pas à combien de temps ça va durer, ça c'est le gros mystère total. Je l'ai déjà dit dans ces émissions, on sait qu'en moyenne un bear market c'est 289 jours pour être précis, mais forcément quand on a les bear markets qui ont duré 16 jours durant la crise de mars 2020, on peut se dire que ça casse un petit peu la moyenne, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est que plus ou moins, du moment où on rentre dans un bear market, il faut s'attendre à 11 mois de période très compliquée. Donc ça, on est un petit peu en train de le pricer. Et ce qu'on est en train de chercher aujourd'hui, d'essayer de trouver finalement, c'est quels sont les points d'inflexion, les moments, à quel moment on pourra commencer à se dire « Tiens, peut-être que là, il y a un truc qui est en train de se passer et qu'on va pouvoir commencer à reconstruire. » À quel moment est ce qu'on appelle le fond ou le bottom en anglais sur les marchés? Et c'est vrai que pour l'instant, eh bien, quand on regarde un petit peu les sentiments des uns et des autres, quand on regarde un petit peu la moyenne des phases de bear market, eh bien, on sait qu'on devrait se trouver avec un point bas maximum. Ce qui veut jamais rien dire parce que c'est pas une science exacte, mais en gros, un point bas maximum à 3000 sur le S&P 500, ça c'est vraiment les côtés extrêmes. Bon, après, vous avez toujours les méga permabears qui vous prédisent 95% de correction sur le marché boursier. Mais ça, jusqu'à maintenant, ça ne s'est jamais produit. Alors, ça veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais on espère quand même que ça arrivera jamais. Mais en tous les cas, pour l'instant, on va dire que le point bas extrême, c'est 3000 points sur le S&P 500 et le consensus se situe quelque part au milieu de 3004-3005 sur le S&P 500, ce qui veut dire qu'on devrait rentrer en bear market. On connaît les Américains, on sait qu'ils aiment bien aller chercher ce genre d'endroit, ce genre de point, puis là on est tellement prêt d'y aller, ce serait dommage de rebondir si tôt. Donc du coup, on a vraiment ce sentiment où on est en train de faire un dead cat bounce, un rebond temporaire avant de repartir plus bas. C'est en tout cas ce qu'on a l'air d'entendre ou d'anticiper en tous les cas dans les marchés et dans la presse financière en ce moment. Donc à qui aura raison et quel sera vraiment l'objectif de tout ça, sera difficile à dire. À noter quand même, qu'il y a un monsieur qui s'appelle Tom DeMark, qui est un analyste technique assez connu et assez suivi aux États-Unis. Pas mal de grands hedge fund managers le suivent et l'écoutent dans ses recommandations graphiques. Alors, il faut savoir que cette année, c'est peut-être pas la bonne année parce que les hedge funds sont fait laminer depuis le début de l'année. Mais en tous les cas, monsieur Tom DeMark, qui lui avait vu parfaitement le rebond de mars 2020, est revenu ce week-end pour dire que pour lui, on était tout proche de trouver un fond et qu'il aimerait voir un deuxième closing en dessous de 3863. Avec un nouveau sell-off ces prochains jours pour commencer à dire « Ok, maintenant, c'est le moment pour racheter ». Alors, on verra s'il a raison. En tout cas, il aimerait voir encore une baisse en direction des 3863. Et à partir de là, il va jouer un rebond assez massif de 16% en direction des 4000 et des poussières, 4400. Donc, il faudra surveiller ces points intéressants. Pour l'instant, il était relativement juste. Effectivement, à un moment donné, on n'est pas juste tout le temps, mais c'est assez intéressant parce que lui, il a au moins l'avantage de mettre des prix, des points précis et des targets objectifs sur ses recommandations. Donc, affaire à suivre. Et globalement, ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que la plupart des intervenants s'attendent à un nouveau sell-off et s'attendre à une entrée du bear market, dans un bear market de la part du S&P 500. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On a un début de semaine qui est relativement bien disposé. On ne sait pas trop pourquoi, hein. On va continuer à avoir pas mal de publications cette semaine, moins intéressantes que d'habitude, mais néanmoins qui peuvent être volatiles. On aura en l'occurrence le cas de Zoom ce soir qui publiera After Close. Et puis on aura surtout à retenir Nvidia qui publiera en milieu de semaine, mercredi soir, sauf erreur. Alors Nvidia, c'est intéressant à observer parce que si on regarde le graphique d'Nvidia qu'on voit à l'écran à l'instant, Nvidia s'est fait littéralement massacrer ces derniers mois depuis mi-novembre jusqu'à aujourd'hui. Elle a perdu 50% de sa valeur. Pourtant, le dernier trimestre, les chiffres étaient très bons. Et pourtant, tout le monde s'attend à des relativement bons chiffres à l'avenir et une performance intéressante de la société. Mais il y a une espèce de mauvaise presse en ce moment qui continue à peser sur Nvidia. Et il faudra voir un petit peu comment les résultats vont être interprétés mercredi soir. Donc ça, c'est vraiment des points d'inflexion relativement importants. C'est pas le fait que Nvidia va changer la face du monde en ce moment, parce que la techno est tellement has-been pour le moment que c'est pas là-dessus que les choses vont changer. Mais par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir des mouvements de volatilité très importants sur ces types de stocks à ce moment-là très précis. Maintenant, quid de la suite ? Eh bien, la suite reste extrêmement mystérieuse pour l'instant. On a l'impression que on sait effectivement qu'on va rentrer en récession. En tout cas, c'est ce qu'on est en train d'anticiper. On sait qu'on va devoir faire très attention aux chiffres de l'inflation. On sait que finalement, le consommateur est en train de nous lâcher. Qu'en parallèle, vous avez encore les matières premières qui tiennent encore relativement bien. Le pétrole est toujours au-dessus des 110. Le blé est toujours quasiment au plus haut tous les temps. Même si on commence à voir à droite à gauche des commentaires comme quoi on est peut-être un petit peu suracheté sur le blé pour le moment. Mais voilà, on reste quand même très très inquiet et très très tendu dans ce marché, même si de nouveau ce matin ça a l'air relativement bien disposé. Il faudra noter encore deux trois petites choses qui sont en train de tourner dans le marché. Vous avez vu qu'il y avait cette nouvelle variole du singe qui est en train de tenir en haleine les médias, et ça sera intéressant à observer parce que je sais pas à combien de cas, mais c'est encore extrêmement faible sur la planète entière. Mais en tous les cas, comme on sort d'une pandémie, autant dire que tout le monde est en train de devenir complètement paranoïaque, puisque monsieur Biden a déjà parlé de vaccins et de distribution de vaccins pour la variole du singe. Donc entre les vaccins anti-Covid, les vaccins anti-variole, on va bientôt exploser à force de se faire piquer dans tous les coins. En tous les cas, ça reste quand même quelque chose qu'il faudra surveiller en parallèle du marché. On pourra noter aussi qu'il y a des rumeurs dans le marché que Broadcom va racheter VMware. Alors, on sait pas combien, on sait pas quand, mais en tous les cas, vu comme c'est écrit dans les médias ce matin, ça devrait sortir dans pas longtemps. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'indication de prix. On n'en sait pas plus, mais vraiment, c'est vraiment du early cycle. Apparemment, takeover de Broadcom sur VMware à confirmer ces prochains temps. C'est une rumeur qui circule déjà sur les grands médias type CNBC, donc c'est pas une monstre surprise. Mais en tout cas, pour l'instant, les indications pré-opening de VMware, il y en a pas. Elle est flat par rapport à vendredi soir, mais il pourrait se passer des trucs de ce côté-là. On va parler aussi de monsieur Elon Musk, parce que comme d'habitude, on a cette fameuse rubrique Elon Musk. Alors monsieur Musk est en train d'essayer de se dépatouiller de son histoire d'hôtesse de l'air qui lui colle au basket depuis quelques jours, et ça ne paraît pas très très simple à faire, hein. Bah, évidemment, comme d'habitude, même si l'histoire est, semble-t-il, réglée depuis quand même pas mal d'années, puisqu'on parle d'un truc qui date de 2016, mais c'est clair qu'au niveau de l'image, ça pose un petit peu problème. Alors, on sait pas si c'est à cause de ça, ou c'est dans la foulée, parce que les gens ont un peu l'impression qu'il est en train de partir dans tous les sens, et que finalement, il s'occupe plus vraiment de sa boîte de base, et ça crée des tensions par rapport à ça. Si vous regardez, Tesla s'est quand même fait littéralement massacrer ces derniers temps, on en parle peu, hein, je veux dire, mais elle a quand même perdu 40% depuis le moment où Elon Musk a décidé de racheter Twitter. 40% de baisse. Et donc ça, c'est pas très bon pour les actionnaires quand même. On voit qu'il y a une espèce de perte de confiance. Et cette espèce de, comment dire, de micmac qu'il est en train de faire au niveau de Twitter, ça interroge quand même pas mal de gens et ça pèse sur le titre. Pour l'instant, techniquement, on tient encore les supports. Il faudrait pas que ça empire. Mais il faut quand même retenir au fond de tout ça que Tesla a perdu 40%, donc 340 milliards de market cap depuis que Musk a voulu acheter Twitter. Donc pour acheter un truc qui aujourd'hui vaut 30 milliards, il a perdu 340 milliards de market cap sur sa boîte de base, sur sa boîte centrale. Et ça, ça pèse quand même un tout petit peu au niveau psychologique. Alors ça, plus ses histoires de massage dans son jet privé, plus le fait qu'il est pas très cohérent sur ce qu'il dit au niveau Twitter, parce que vendredi dernier, il disait « j'en veux plus », « ah ben non, finalement, j'en veux quand même ». Dans la même journée, sur Twitter, par tweet également. Donc du coup, on a un petit peu l'impression qu'il se disperse. C'est vrai que ça se ressent un petit peu sur la maison mère, sur Tesla, et pas mal d'investisseurs commencent à se poser des questions. On en parlait d'ailleurs vendredi dernier, hein, monsieur Dan Ives, l'analyste historique sur Tesla, commence à dire qu'il aime pas trop ce qui est en train de se passer. Il a downgradé son price target. Donc on voit quand même qu'il y a un petit peu une perte de vitesse sur Tesla pour l'instant, et il faudrait pas qu'il vienne casser les $700 à la baisse, qu'on casse ce support, parce qu'après là aussi on va se retrouver dans une autre problématique, c'est que Musk va être obligé de vendre de plus en plus de titres pour couvrir sa garantie de crédit qu'il a pris pour acheter Twitter. Alors pour l'instant, Twitter n'est toujours pas fait, on sait pas toujours le prix qu'il va faire, lui il a confirmé le deal, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, au prix où se traite Twitter, on n'a pas l'impression que le marché est en train de pricer le fait que le deal est confirmé. Donc beaucoup d'interrogations et ça pèse quand même sur l'ensemble de la sphère Musk. Au passage, notons quand même que Starlink, ces histoires de satellites fonctionnent quand même pas mal puisqu'il est en train de lever encore 1,7 milliard de plus de financement pour Starlink. Donc ça continue à aller relativement bien du côté private equity en tous les cas. Mais pour le reste, on a un déficit d'image et une problématique qui est en train de se développer de plus en plus sur Elon Musk. Et puis c'est vrai que ces histoires de cul, ça l'a pas forcément aidé à faire briller un peu plus loin son étoile. Voilà, donc on a une nouvelle semaine qui commence plutôt positive. Il y a effectivement pas des grandes nouvelles. On aura donc encore pas mal de publications trimestrielles, comme je l'ai dit. On n'aura pas de gros chiffres économiques, mais on va arriver gentiment à la fin du mois. On va pouvoir bientôt reparler des non-farm payrolls. On va pouvoir de nouveau se poser des questions sur l'avenir de l'inflation. On va refaire un cycle en début de mois de juin. Pour l'instant, on est que en train de boucler gentiment ce mois de mai. Toujours pas mal d'hésitations, on voit que les gens sont en train d'essayer de vouloir jouer ce rebond aujourd'hui sur le S&P 500, enfin sur les indices américains. Pour l'instant, c'est pas vraiment convaincant quand on regarde ce qui se passe en Asie. On verra un petit peu comment ça va aller. On sait très bien que souvent, ils nous font le coup, hein. On est vraiment strong le matin, puis finalement, ça se dégonfle l'après-midi. Donc, il va falloir continuer à surveiller. On va dire que l'avis global est pour une suite de la baisse, une suite du sell-off majeur sur les indices boursiers, un re-rating, j'ai envie de dire, de tout ça, et un pricing finalement de cette éventuelle récession pour aller chercher encore, allez, 10-11% plus bas sur le S&P, 10-12% plus bas sur le S&P 500, pour qu'on commence quelque part peut-être à rappeler qu'on est en train de toucher un bottom, toucher un fond. Certains analystes disent à quel moment on va trouver ce bottom. Eh bien, il faudra aussi regarder à quel moment on aura vraiment 2 jours ou 3 jours de vraiment du qu'on appelle des grosses journées d'achat. Ce sera un des signaux comme quoi peut-être on est en train de dessiner un bottom. On a vu qu'il y avait déjà des fonds qui avaient capoté, donc c'était aussi une bonne nouvelle, ça nettoie le marché. On voit qu'on doit encore avoir plus de ventes sur le marché pour avoir peut-être une dernière phase de panique. On aimerait bien voir la vol au-dessus des 40%, ou en tout cas à 40%, pour dire qu'on est en train de construire une exagération. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore et on voit qu'on est encore dans cette zone d'hésitation et de construction. Et c'est ça qu'il faudra déterminer ces prochaines semaines. Voilà, je vous remercie d'avoir été là ce matin. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse-Côte francophone. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo. Et puis, vous trouverez également un lien en dessous. J'étais interviewé ce week-end sur la chaîne Draw My Economy sur YouTube. En France, donc n'hésitez pas à aller voir l'interview chez François-Xavier. Et puis moi, pour ça, mis à part ça, je vous retrouve demain matin à la même heure et au même endroit pour voir un petit peu comment on a digéré ce premier jour trading de la semaine. Très bonne journée à tous. Bye bye.